les ordinateurs et se demande s'ils seront un jour plus intelligents que lui. Alphonse va en forêt. Il observe les arbres, note leur taille, en hauteur, en largeur. Il recense toute la forêt dans son carnet. Ces données en anglais, c'est du data. Il introduit ensuite ces données dans son ordinateur. Et à partir de ces infos, la machine crée un algorithme qui arrive à prédire la hauteur d'un arbre en fonction de sa largeur. On appelle ça le machine learning. En français, l'apprentissage automatique. Il est utilisé partout. Sur Facebook, pour hiérarchiser les pages qui intéressent Alphonse, l'algorithme a observé ses clics et ses likes. Ou sur Google, pour prédire combien de temps il faudra à Alphonse pour rentrer à la maison depuis la forêt. L'algorithme a observé des trajets similaires. Plus on a de data, plus l'intelligence artificielle devient fiable. Pas mal, mais pas suffisant pour des tâches plus compliquées. Par exemple, pour reconnaître des images. Est-ce un chien ou un chat ? Là, on passe du machine learning au deep learning. En français, l'apprentissage profond. Comment ça marche ? Simple ! Enfin, pas si simple. On doit programmer les machines comme un cerveau humain. Nos 100 milliards de neurones sont connectés par des synapses. Ils reçoivent du courant électrique des autres neurones et décident de le répercuter ou pas. Les scientifiques répliquent ce système en formules mathématiques. Ils mettent tout ça en réseau et la machine se met alors à apprendre toute seule en observant des milliers de photos. À force d'observation, elle arrive à prédire si c'est un chat ou un chien. Mais des fois, il y a des erreurs quand même. Une imperfection dans la photo amène la machine à penser qu'il s'agit d'une autruche. Et pour l'instant, les scientifiques ne savent toujours pas pourquoi. Le deep learning, c'est encore une boîte noire. Alors, l'ordinateur sera-t-il un jour plus intelligent qu'Alphonse ? Pas sûr. L'intelligence artificielle est programmée pour une seule tâche à la fois. Alors qu'Alphonse, en regardant son arbre, il pense à la peinture, à l'écologie, à l'histoire et à sa copine. C'est un humain, quoi. Et ça, c'est difficile à programmer. Mais impossible ? Ça, seul l'avenir nous le dira.
Et l'avenir, c'est aujourd'hui déjà, après l'imprimerie, après l'électricité par exemple, est-ce qu'on vit maintenant une nouvelle révolution ?
Oui, parce que là, on a l'impression que c'est dans la science-fiction, mais en fait, c'est déjà là. En fait, quand Sylvia, quand vous demandez quel temps il va faire demain à votre portable avec Siri, qui vous répond il va faire 10 degrés à Paris, il y a de l'intelligence artificielle, parce que c'est très compliqué de comprendre le langage humain. Quand vous faites traduire une page d'un article coréen par Google, c'est de l'intelligence artificielle. Les deux, ça fonctionne sur les deux. Et donc ça, pourquoi ça marche, le petit commentaire disait bien, c'est à cause des données. Donc plus on a des données, en fait, plus on va avoir une intelligence artificielle performante. Et là, en ce moment, en fait, on voit que le président français a une stratégie sur la donnée en France. C'est vrai qu'on a un peu perdu la première bataille des données, puisque les Américains et les Chinois, avec les GAFA, avec Baidu, avec WeChat, l'équivalent, en gros, Alibaba, qui est un peu le Amazon, eh bien, ils ont récolté des masses énormes de données personnelles sur les gens, et donc ils ont pu faire tourner leur modèle. Mais tout n'est pas perdu.
On va parler du plan français qui a été présenté cette semaine. 1,5 milliard jusqu'en 2022 pour affronter les États-Unis qui sont en tête aujourd'hui, les Chinois qui veulent être les numéro 1 mondiaux en 2030. Est-ce que ça va suffire ? Et comment se positionne la France sur cette question de l'intelligence artificielle ?
1,5 milliard sur un secteur comme celui-là, c'est très peu d'argent. Ça paraît être beaucoup d'argent, mais en réalité, c'est très peu. Et donc, de toute façon...
5 ans en plus.
Voilà.
Sur 5 ans, oui.
Donc, de toute façon, la France ne peut, dans ce combat-là, dans cette lutte pour attirer... Parce qu'il s'agit de quoi ? Il s'agit d'attirer non seulement des talents, c'est-à-dire des ingénieurs, il s'agit d'attirer des firmes, il s'agit de booster, de doper ce que les firmes françaises sont capables de faire, mais il s'agit également d'attirer les investisseurs. Et donc, la France ne peut pas y aller seule, il faut qu'elle y aille avec ses pairs européens. Moi, ce qui me frappe, c'est la volonté. Emmanuel Macron, clairement, il se positionne comme « je vais pousser l'intelligence artificielle », mais en même temps, pour l'instant, quand on regarde derrière lui, on a quand même envie de lui demander « et les autres ?» Qui avec vous ? Donc c'est ça la grande question des prochaines années.
On va regarder la une de Wired, c'est ce magazine américain spécialisé, c'est pas la une d'ailleurs, c'est un article de Wired, le magazine américain spécialisé dans les nouvelles technologies, qui publie, et c'est plutôt rare, une interview d'un politique, en l'occurrence Emmanuel Macron, qui s'adresse là à la communauté tech mondiale, pour qui Wired est une référence. Je vais le citer, « Cette énorme révolution technologique est en fait une révolution politique. » L'intelligence artificielle va soulever beaucoup de questions éthiques, politiques, elle va questionner notre démocratie et nos choix collectifs. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?
Vas-y.
Alors Alberto et ensuite Jean-Christophe.
Non, tout à fait d'accord, que le plan de Macron
on soit en même temps ambitieux et peut-être pas suffisant, parce que, comme Richard a très bien dit, le montant n'est pas si grand que ça. Ceci dit, une chose me frappe toujours de l'attitude française de traiter les problèmes internationaux de toute nature. Il faut toujours faire des classements. Nous devons dépasser tel, tel ou tel. Mais ce qui intéresse est faire des progrès ou dépasser les voisins. C'est une mentalité française particulière de poser le problème. Ceci dit, à mon sens, l'un des défis fondamentaux est celui de créer de l'intelligence artificielle, l'utiliser l'intelligence artificielle, mais créer aussi des emplois dans d'autres secteurs. Alors, j'ai vu une étude qui dit que ce développement de nouvelles technologies coïncide avec un développement d'emplois peu qualifiés dans le secteur des services.
Alors ça, c'est la grande incertitude hein, sur l'emploi.
Oui, mais je voudrais revenir sur à quoi ça sert. Enfin, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle? Vous dites s'il faut être numéro 1, pas numéro 2. Il a dit autre chose, Emmanuel Macron, et dans son discours et dans son interview à Wired, il parle un peu des usages de qu'est-ce qu'on peut faire en matière d'intelligence artificielle. Et il y a, si on n'a pas les données d'achat de Amazon, etc., on a beaucoup de données en France et des données publiques. Et savez-vous quelle est la plus grande base de données de santé au monde? C'est notre bonne vieille sécurité sociale, où il y a 66 millions de Français, avec tous les traitements, leurs indications, qu'est-ce qui se passe. Et ça, en fait, ça a beaucoup d'argent, ça a beaucoup de valeur, parce que s'il y a bien quelque chose qui rassemble tout le monde, c'est l'idée de vivre un peu plus longtemps. Donc, on peut aussi faire de la valeur, mais utile, en fait. Et il a les mêmes projets sur l'environnement, sur l'énergie, etc.
Jean-Christophe ?
D'abord, l'intelligence artificielle, qu'on soit pour, qu'on soit contre, de toute façon, elle va se développer. Donc il faut effectivement s'y préparer, il faut préparer effectivement des informaticiens, des chercheurs qui seront l'utiliser. Moi j'ai trouvé très très bien vraiment le petit clip tout à l'heure, enfin c'était très très bien présenté. La France, elle a quand même, au-delà, Richard a raison, c'est pas grand chose, 1,5 milliard sur 5 ans, elle a quand même développé depuis plusieurs années ce qu'on appelle le crédit impôt recherche. Et ça c'est quelque chose qui plaît énormément aux multinationales, quand elles doivent localiser quelque part un centre de recherche, eh bien la France est vraiment parmi les pays qui le regardent le plus attentivement, parce qu'effectivement c'est un dispositif fiscal qui permet de défiscaliser un certain nombre de montants consacrés à la recherche. Donc la France elle a une stratégie un petit peu de long terme là-dessus qui devrait être payante. Après effectivement l'échelon européen il est nécessaire, et moi ce qui m'intéresse beaucoup c'est ce qu'on appelle le règlement général européen sur la protection des données, qui est quelque chose qui va rentrer en vigueur le 25 mai prochain au
on
niveau de l'Union européenne. Et ça, c'est vraiment passionnant.
Et
parce
ça
que c'est les Européens.
Aux acteurs américains.
Et voilà, donc c'est là, les Européens qui essayent de reprendre un peu la main sur le contrôle des données.
Pour revenir sur l'aspect politique éthique, je vous propose qu'on écoute c'était en septembre dernier, le président russe Vladimir Poutine qui disait tout haut ce que la plupart des dirigeants de la planète penseraient normalement tout bas.
L'intelligence artificielle est l'avenir non seulement de la Russie, mais de toute l'humanité. Les possibilités sont colossales et les menaces sont difficiles à pronostiquer aujourd'hui. Celui qui deviendra le leader dans ce domaine sera le maître du monde.
Une rue est vers l'or, Anne-Sophie, sur l'intelligence artificielle. C'est vrai, on devient le maître du monde si
oui,
on maîtrise l'intelligence artificielle.
Personne ne veut rater, comme disait Jean-Christophe, cette révolution.
C'est une perception russe. Hein. Là, on retrouve quand même la perception russe. C'est le rapport de force. C'est il y a un maître du monde et il faut. Soit on est le maître du monde, soit on essaye de le devenir.
Alors après,
l'intelligence artificielle, il faut aussi l'imaginer comme une sorte de patrimoine commun. C'est de toute façon quelque chose.
Ça pose la question, pardon, beaucoup, mais justement, ça pose la question en fait, de la sécurisation de cette technologie. Le maître du monde, oui, non. Est-ce qu'il faudrait que l'intelligence artificielle dépende d'une instance internationale, par exemple, l'ONU ou une autre?
Mais ça, c'est impossible. Je ne vois pas comment est-ce qu'elle pourrait... il y a des compétiteurs. La Russie a une stratégie de puissance à elle. Elle ne va pas partager avec les autres. Si elle le fera, ça sera pour obtenir quelque chose, mais certainement pas pour le donner, j'imagine.
Mais les deux défis pour la France, il y a le défi de redéfinir au fond les frontières étatiques, c'est-à-dire quel rôle pour les États, donc la France en fait partie, face à la puissance des multinationales qui développent l'intelligence artificielle. Donc là, le fait qu'Emmanuel Macron soit devant, c'est plutôt prometteur. Emmanuel Macron veut que la France comme État encadre, soit présent et agisse. Et il y a une autre question pour la France, c'est est-ce qu'en matière d'intelligence artificielle, on peut éviter les syndromes passés qui sont en gros, par exemple, le syndrome Concorde, c'est-à-dire former d'excellents ingénieurs, avoir d'excellentes idées, mais échouer complètement sur le plan économique. L'homme qui est derrière parlons-en quand même, ce plan intelligence artificielle, c'est Cédric Villani. C'est le mathématicien français qui est aujourd'hui député de la majorité présidentielle, très proche d'Emmanuel Macron, qui est une personnalité d'exception, un scientifique d'exception. Mais ce qu'il faut derrière, c'est toute la, je dirais, l'ingénierie économique et financière pour être présent avec les brevets, la connaissance, etc. Et là, il y a un énorme enjeu pour la France.
Macron a plutôt proposé de financer des entreprises privées et on le reproche déjà assez.
Et ça pose la question, mettez l'argent, vous ne la mettez pas dans la recherche publique, vous la mettez en privé. Oui,
mais ça repose la question éthique.
Les deux grands enjeux, c'est, comme on le disait tout à l'heure, c'est la maîtrise des données, et voir donc le partage des données. On peut décider qu'au lieu qu'il n'y ait qu'une puissance qui les aspire, finalement, des données soient en libre accès, open source. Hein, c'est quand même une tradition très forte dans le monde, dans l'univers d'Internet. Donc, question, qu'est-ce qu'on fait des données? Et là, les Européens ont commencé à dire, attention, toutes les données ne sont pas accessibles, ou en tout cas, il faut que le consommateur en soit conscient. Et le consommateur, nous tous, on est très ambivalents, parce que d'un côté, on est très heureux de donner toutes nos données, comme ça, on sait exactement quand on va à tel endroit, eh bien, on a un programme qui nous explique par où il faut passer, par exemple, en voiture, donc ça, ça nous plaît bien. Mais par contre, quand on nous dit, attention, c'est utilisé pour d'autres raisons, ça, ça nous plaît beaucoup moins. Donc, contrôle des données, et puis capacité à construire des algorithmes. Et là, c'est une capacité scientifique, c'est des ingénieurs, c'est ça qu'il faut développer.
Et souvent, on imagine tout ça avec des petits robots plus ou moins bienveillants, malveillants. Est-ce que, ou plus globalement, c'est une question plus personnelle, est-ce que tout ce qui se passe là vous fascine ou vous fait peur? Et ça sera un rapide, très rapide tour de table.
Ça me fascine, il y a des éléments d'inquiétude, mais c'est un chemin logique qui est en cours, et donc le côté fascine est supérieur.
Moi, je dirais que c'est plutôt le contraire. Ça me fait plutôt peur, parce que si l'on ne change pas, je dirais, le dispositif économique international actuel avec des multinationales en mesure de tout contrôler, de contrôler toute la chaîne, c'est-à-dire de la donnée jusqu'à l'intelligence artificielle, alors on a un vrai problème.
Jean-Christophe, rapidement.
C'est l'épée et le bouclier. Hein, vous en avez qui progressent très vite dans l'exploitation des données et de l'intelligence artificielle. Vous avez les régulateurs et les consommateurs, nous tous les citoyens, qui à un moment prenons conscience que ça va trop loin. Donc on est dans cette marche en avant. Je suis quand même assez confiant sur la capacité des citoyens, nous tous, à garder le contrôle.
Et le mot de la fin pour vous est pas effrayé.
Alors, je pense que ça va poser un vrai problème social et politique, en fait. J'ai pas de doute à titre personnel sur qu'en termes macroéconomiques, il va y avoir des nouveaux emplois, des nouveaux secteurs qui vont émerger, mais le problème, c'est qu'il y a des individus avant les gens se disent, est-ce que je vais être remplacé par un robot? Ben oui, il y a un certain nombre de personnes, un aide-comptable, un technicien de radiologie, un journaliste peut-être. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait tous ces gens quand on voit l'impact qu'a eu la désindustrialisation et le départ des cols bleus? On se dit, il y a des bataillons de classe moyenne, de cols blancs qui vont se retrouver sans boulot, et ça va être un problème politique.
Politique. Et pour l'instant, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'intelligence artificielle ne recrée pas encore la pensée. Vous en êtes la preuve vivante.